Microcité. Une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Margot Siffer.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, bienvenue dans Microcité, votre émission hebdomadaire d'actualité et de débat. Au sommaire cette semaine, le Brexit. Ce soir à minuit précisément, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quels changements vont-il y avoir pour les 27 pays restants? Ce divorce n'est-il finalement pas que symbolique? Toutes les réponses à ces questions dans une dizaine de minutes avec Antoine Loistron et son invité en studio. À suivre également en fin d'émission notre long format consacré à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à Grenoble. La ville est considérée par de nombreuses associations comme la mieux adaptée de France pour les handicapés. Julia Beaufils, qui est allée vérifier, nous en dira plus. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h. Microcité, épisode 11, c'est parti! Tout de suite, c'est le journal avec Claire Guédon. Bonjour Claire.
Bonjour à tous. Le Brexit, c'est pour ce soir. À minuit, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. On verra comment vont travailler les députés européens et britanniques dans les mois à venir. Un des 200 Français rapatriés de Wuhan présente des symptômes du coronavirus. Il a été hospitalisé. Les autres seront placés en quarantaine pendant 2 semaines. Et puis à Grenoble, les salariés du groupement hospitalier mutualiste se battent pour racheter leur clinique.
Ce sera le sujet de notre dossier. Le Brexit, c'est dans quelques heures.
À minuit, heure française, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. Après plus de 3 ans de négociations et de feuilletons politiques, l'UE passe à 27 membres. Mais ce n'est que l'acte 1 d'une longue période de transition qui s'annonce. Le pays doit encore négocier les termes de sa future relation avec Bruxelles. Pour ça, le Parlement européen a constitué un groupe de travail qui doit traiter avec les députés britanniques. Gwendoline Delbos, originaire de l'Isère et députée européenne Les Verts, en fait partie.
Ça va pas être évident, ils n'ont pas forcément très envie de travailler avec nous. On est face à une majorité pro-Brexit dans ce Parlement, qui en plus en a marre un peu du sujet. Donc voilà, on sait pas très bien comment on va réussir à travailler avec eux. C'est pas sûr qu'ils soient très coopératifs, il va nous falloir faire preuve de patience. Donc ça va être vraiment à nous de les solliciter régulièrement et d'essayer de les ouvrir au sujet et qu'ils prennent conscience que pour le bien de leurs citoyens, ils ont intérêt à travailler avec nous.
Nouveau rebondissement dans l'affaire de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alexandre Djouri a été mis en examen ce midi pour corruption active. L'homme d'affaires franco-algérien est soupçonné d'avoir été un intermédiaire majeur entre l'ancien président français et le gouvernement libyen. Il avait été remis aux autorités hier soir par la justice britannique qu'il avait arrêté en 2018. Un des 200 Français rapatriés ce midi depuis Wuhan présente des symptômes du coronavirus, a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn en début d'après-midi. Il a été transféré à l'hôpital de la Timone à Marseille pour être testé. Les autres passagers, eux, resteront 14 jours dans un centre de vacances de la commune de Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Une mesure de précaution indispensable pour Michèle Ottmann, chercheuse en virologie à Lyon.
Si jamais ils ont été infectés par ce coronavirus dans les jours qui précédaient leur départ, ils le transmettent en fait à toute la population et ça nous ferait après une épidémie comme ce qu'on a pu constater en Chine. On les mettait en quarantaine aussi pendant 14 jours parce que c'est la période d'incubation qui est de l'ordre de 2 à 7 jours et on double le temps par mesure de sécurité. C'est ce qui a été fait aussi pour Ebola.
Édouard Philippe fait son retour au Havre.
Le Premier ministre a annoncé sa candidature comme tête de liste au municipal de la ville ce matin. Il y a déjà été maire pendant 7 ans. Il a aussi assuré qu'il ne quittera pas Matignon s'il remporte les élections. Une déclaration qui fait réagir dans l'opposition. Pour Yannick Jadot, député européen Les Verts, c'est un manque de respect envers les Havrais et les Français. Le Conseil d'État suspend en partie la circulaire Castaner prise pour les prochaines municipales. Le texte demandait au préfet de ne plus prendre en compte les couleurs politiques des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Une mesure qui risque d'exclure plus de 95% des villes au moment des résultats. Le gouvernement assure qu'il fera les modifications nécessaires. À Grenoble, les salariés du groupement hospitalier mutualiste ont quitté leur poste hier midi. Les médecins, infirmiers et aides-soignants sont inquiets depuis depuis l'annonce de la mise en vente du groupe en septembre dernier. La Mutte, comme on l'appelle, est le deuxième acteur sanitaire le plus important en Isère. Il réunit 3 établissements à Grenoble et c'est devant l'un d'eux, la clinique d'Alembert, qu'ils ont choisi de se rassembler, Zoé Ruffy.
Oui, salariés et habitants du quartier étaient plus de 300 à se rassembler autour d'un pique-nique géant entre midi et 2. Rime, médecin anesthésiste, finit sa part de tarte rapidement.
Là, moi, je reprends la consultation dans 10 minutes, mais bon, je voulais être là avec mes collègues pour dire ma colère aussi quant à la vente de l'établissement et la privatisation surtout.
La privatisation ou plus précisément le rachat du groupement par une société à but lucratif. Ce qui n'était pas le cas avec l'actionnaire actuel Adria, un changement de statut qui serait une catastrophe d'après Éléonore, aide-soignante.
Ça veut dire que les gens vont devoir tout payer, peut-être qu'ils vont enlever certains services, peut-être les urgences, peut-être la maternité et avec le CHU, les urgences c'est indispensable parce que nous on est déjà saturés, le CHU nous appelle dans la nuit pour dire prenez les patients, on n'a plus de place, s'il n'y a plus d'urgence, qu'est-ce qu'on fait ?
Pour éviter ce rachat, les salariés et les habitants du quartier préparent un projet de SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Thierry Caron, secrétaire force ouvrière au GHM.
Ça nous permettrait effectivement de faire un rachat à but non lucratif du GHM. Donc cette société coopérative se composerait de plusieurs collèges. Il y a 3 collèges minimum. Il faut un collège salarié, un collège habitant grenoblois et un collège investisseur.
Et dans ce collège, les salariés auront besoin du soutien de gros investisseurs. Pour le moment, les regards se tournent vers la métropole et les collectivités locales alentour.
La métropole grenobloise va déployer prochainement des bornes à mégots au niveau des arrêts de tram et de bus.
Une première a déjà été inaugurée vendredi dernier à Chavant. Les mégots par terre, on en voit partout. C'est un véritable défi d'éradiquer ces déchets qui mettent plusieurs années à se décomposer. Adrien Beaujean a rencontré des fumeurs à Grenoble.
La situation est classique, on marche dans la rue, on allume sa cigarette et parfois...
Mais il y a toujours ce réflexe à la con de... le jeter malheureusement de temps en temps, mais j'évite au maximum.
Je dirais que 90% du temps, je les mets dans une poubelle qui est à proximité. Après, s'il n'y en a pas, malheureusement, je le jette, oui.
Amandine, justement, est en pause cigarette place Victor Hugo et selon elle, Grenoble n'en fait pas assez en matière de tri des mégots.
Il n'y a pas assez de poubelles à cendrier parce que là, j'ai toujours peur dans ce genre de poubelle, juste en sac plastique, j'ai toujours peur de mettre le feu en fait à ce qu'il y a à l'intérieur.
Pour pallier ce manque, la métropole innove depuis plus d'un an. Ludivine est en train d'attendre sa fille devant l'école Jean Jaurès.
Il y a des gens qui circulent de la ville de Grenoble et qui interpellent les fumeurs et qui distribuent du coup des packages, des petits cendriers pour pouvoir jeter les mégots dedans. J'en ai à peu près dans tous mes sacs à main.
Gérer les mégots, c'est la responsabilité de chacun. Et dans ce bar grenoblois où travaille Daniel, on a pris les choses en main.
On a mis en place une opération, un verre de mégot ramassé, une pinte offerte. Les gens peuvent se présenter directement au comptoir, on leur donne un gobelet pour venir en fait remplir ce gobelet avec des mégots et nous le restituer ensuite. Et on espère la réitérer tous les étés et en tout cas toutes les fois où ce sera pertinent.
Ces opérations reprendront avec la réouverture des terrasses en mai prochain.
Et avant le retour du soleil, une vingtaine de bornes vont voir le jour à Grenoble. À Melbourne, du tennis, on connaît l'affiche de la finale de l'Open d'Australie. Dominic Thiem jouera contre Djoko dimanche à 9h30. La Française Kristina Mladenovic, elle, a remporté son 4e titre en double dames ce midi. En rugby, le tournoi Destination, ça commence demain. Le Pays de Galles face à l'Italie à 15h. La France, elle, entre en lice dimanche. Pour le Crunch face à l'Angleterre, rendez-vous à 16h.
Merci Claire, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité jusqu'à 17h.
16h38 sur Radio Campus Grenoble. On se retrouve dans quelques minutes pour le dossier d'Antoine Loistron avec son invité sur le Brexit. Mais avant ça, un peu de musique.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish
wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Oh, no. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. Hey. And the memories bring back your.
C'était Memories des Maroon 5, il est 16h41. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble, on est ensemble jusqu'à 17h. Le dossier. Le Brexit, c'est dans un peu plus de 7 heures. Après 3 ans et demi de négociations au niveau européen, mais aussi de conflits politiques au Royaume-Uni, ça y est. Ce soir, l'Union européenne perd un État membre, Antoine Loistron.
Et c'est historique, les 66 millions d'habitants du Royaume-Uni ne seront plus citoyens européens demain. Mais l'heure au grand changement, ce n'est pas pour tout de suite. Une période de transition s'ouvre maintenant jusqu'au 31 décembre. Période pendant laquelle le Royaume-Uni et l'Union européenne vont encore négocier d'éventuels accords commerciaux. Alors nous, on va évoquer l'aspect symbolique pour l'Union européenne de cette décision. Quel avenir pour les 27? Est-ce un obstacle? Ou finalement, est-ce que rien ne change? Pour en parler, on est avec Sabine Sorudeur, professeure de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Mais avant de vous entendre, on écoute juste un petit résumé des 3 dernières années et demie. C'est préparé par Benoît Almeras.
Le point de départ est un référendum. Le 23 juin 2016, les Britanniques votent à 52% pour quitter l'Union européenne.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Le résultat est un tremblement de terre. Le Premier ministre conservateur anti-Brexit, David Cameron, démissionne. Il est remplacé par Theresa May. Elle enclenche officiellement le Brexit le 29 mars 2017.
They voted to leave the European Union and they did so with their eyes open.
La nouvelle Première ministre négocie un accord avec l'Union européenne pendant près de 2 ans. L'objectif, préserver les relations commerciales. Mais Theresa May se heurte à ses opposants, y compris dans son propre camp conservateur. Le 15 janvier 2019, le Parlement britannique rejette l'accord de sortie par plus de 200 voix d'écart.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
D'abord prévu fin mars 2019, le Brexit est reporté à plusieurs reprises. Theresa May est discréditée. Son rival populiste, Boris Johnson, prend sa place le 24 juillet 2019. Son programme tient en quelques mots, accomplir le Brexit.
Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. And let's bring this country.
Mais pour y arriver, Boris Johnson doit d'abord consolider sa majorité. Des élections législatives anticipées sont organisées le 12 décembre 2019. Le Parti conservateur les remporte largement.
We did it. We pulled it off, didn't we? We will at last be able to do what?
Tous les obstacles sont levés, les parlementaires britanniques approuvent un nouvel accord de Brexit. Il est ensuite validé par le Parlement européen il y a 2 jours. Les députés du Royaume-Uni quittent leur siège à Bruxelles. Leurs collègues leur rendent un dernier hommage.
Alors Sabine Sorudeur, ce Brexit, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour l'Union européenne ?
C'est une question très difficile parce que on peut le voir de deux côtés. On peut voir que, en effet, la sortie d'un État, d'un système politique, qu'est l'Union européenne, est un grand problème, est véritablement une crise dans laquelle se trouve cette organisation qui est l'Union européenne. Et de l'autre côté, on peut également voir que, éventuellement, le départ d'un État très hésitant par rapport à l'intégration européenne, en opposant un certain nombre de propositions, en particulier dans le domaine social, est une possibilité pour les États membres d'avancer. Le problème que nous avons actuellement, c'est qu'aucun des États membres est véritablement prêt de relancer l'intégration européenne comme ça.
Finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne ? On ne peut pas trop savoir.
Pour l'instant, c'est certainement pas une bonne nouvelle. Hein. Le départ, encore une fois, d'un membre d'un système politique est toujours l'indication qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien et qui est problématique et qui n'a pas été réglé. Mais comme j'ai déjà dit, il y a aussi la possibilité de voir, à travers le départ du Royaume-Uni, la possibilité de relancer cette intégration européenne, au moins jusqu'à un certain degré.
Alors comment elle pourrait être relancée, cette Union européenne, finalement ?
Actuellement, la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres ont décidé de lancer, à partir du 9 mai 2020, une grande nouvelle conférence, la conférence sur l'avenir de l'intégration européenne, de l'Union européenne plutôt. Donc une conférence qui a comme objectif de s'interroger sur les objectifs qui peuvent être partagés aussi bien entre les États membres que entre les citoyens de ces États membres et d'autre part de revoir éventuellement la structure institutionnelle des élections européennes ou la structure institutionnelle de l'Union européenne tout court.
Donc les pistes, ça serait vraiment de réformer l'Union européenne pour qu'elle soit plus compréhensible, plus simple pour les citoyens et pour les pays adhérents.
C'est un objectif qui est très très important pour l'Union européenne et pour tous les membres de l'Union européenne, c'est de rapprocher l'Union européenne aux citoyens. C'est un problème qui est très profond, qui est très profond au niveau de l'Union européenne, mais qui est aussi très profond au niveau national. Cette crise démocratique dont on parle depuis très longtemps a été, on a essayé de la résoudre depuis des dizaines d'années en construisant des nouvelles solutions institutionnelles, en associant les citoyens de plus près. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui vraiment confrontés à une crise de la démocratie représentative. Et toutes les solutions qui, en fait, renforcent ces démocraties représentatives, en ajoutant un tout petit peu de participation des citoyens par-ci par-là, ne semblent pas fonctionner.
Parce que ça veut dire que l'Union européenne ne peut pas être politique, mais peut seulement être économique.
Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que l'Union européenne peut uniquement être économique. Elle est déjà politique. Elle est politique et je pense qu'il faut le souligner, tout simplement parce que les citoyens s'y intéressent et s'y opposent. Et donc ça montre déjà qu'il y a un intérêt pour la chose. Ça veut dire on veut participer pour transformer éventuellement, pour rendre l'Union européenne plus sociale, plus intéressée par les politiques d'emploi, plus intéressée par les questions de développement durable et de protection environnementale. Donc on a cette envie. La question est de savoir comment concrètement fait-on.
Et les réponses, pense-t-on, on ne les connaît pas encore, j'ai l'impression.
On a des pistes qui sont nombreuses, qui ont été proposées ces dernières 5 années par la Commission européenne dans différents rapports qu'elle a publiés. Mais ce qui est très important, c'est que cette nouvelle conférence a une série d'objectifs avec la nouvelle Commission européenne qu'elle aimerait bien tenir. Et les éléments que j'ai déjà soulignés, à savoir développement durable, environnement, justice sociale, sont au cœur de ce débat.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus un alignement des planètes entre le départ du Royaume-Uni, qui était un peu un pays qui ralentissait l'Union européenne, et l'arrivée d'une nouvelle Commission européenne qui est moteur pour relancer l'Union européenne ?
L'arrivée de la nouvelle Commission européenne était quelque chose qui est prévu hein, tous les 5 ans et donc relativement indépendant du départ du Royaume-Uni. Mais il est vrai aussi que le Parlement européen dans lequel vous n'avez plus les opposants, les Brexiteers, comme on dit, britanniques, peut créer la possibilité de réformer, en fait, cette Union européenne en profondeur.
Et alors, Sabine Sorudger, je vous rappelle, vous êtes professeure de sciences politiques à l'IEP de Grenoble. Mais est-ce que si jamais le Brexit fonctionne, si jamais le Royaume-Uni maintenant va sortir de l'Union européenne et arrive à avoir des accords commerciaux intéressants pour eux, est-ce que ça ne ferait pas un appel d'air à d'autres pays qui voudraient aussi sortir de l'Union européenne ?
C'est en effet une des grandes craintes qui a émergé en 2016. Ce qui était relativement intéressant, c'est de voir que, initialement, donc au début de 2017, les eurobaromètres qui mesurent de manière régulière le sentiment d'appartenance des Européens à l'Union européenne ont montré que, étrangement et paradoxalement, le soutien à l'Union européenne a légèrement augmenté au lieu de baisser. Et je pense que cette question, elle est très légitime, mais elle est aussi beaucoup plus complexe, car la question de vouloir sortir de l'Union européenne ou pas est une question qui est tellement binaire, qui ne permet pas de voir ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'Union européenne, ralentir l'Union européenne, avoir encore plus de différenciation. Donc toutes ces différentes solutions qui sont en train d'être vues et qui existent déjà en réalité dans l'Union européenne.
Et est-ce que ce serait possible de faire une Union européenne à plusieurs vitesses où chaque pays trouverait un peu son compte dans le vaste ensemble que serait l'Union européenne ?
C'est déjà le cas. C'est quelque chose qui est en train d'être renforcé encore. Il y a de plus en plus de travaux et d'analyses qui portent sur cette fameuse différenciation de l'intégration européenne, qui veut dire que, d'une certaine manière, certains États seulement participent à certaines politiques et, d'autre part, qu'à l'intérieur de ces politiques, on a quelques domaines qui sont très intégrés et d'autres domaines qui sont uniquement au niveau de la coordination, au niveau de l'Union européenne.
Et aujourd'hui, quels sont les États qui un peu sont moteurs dans l'Union européenne ?
On a toujours le fameux couple franco-allemand qui continue à être un moteur pour l'intégration européenne, malgré toutes les difficultés, tous les conflits qu'on peut constater. Il y a certainement la France. L'élection du président français a été considérée comme une énorme ouverture vers peut-être davantage d'intégration européenne. Il y a également des questions du positionnement de l'Italie qui se posent. Et puis, bien évidemment, les Pays-Bas, qui, contrairement au Royaume-Uni, sont un pays économiquement très libéral, mais qui sont très attachés à l'intégration européenne et donc proposent, ensemble avec une série d'autres pays, des solutions.
Pour conclure un peu, est-ce que l'avenir européen, il est bon ? Il est quand même encore radieux ou pas, selon vous ?
L'avenir européen, là encore une fois, c'est très compliqué à répondre. C'est un avenir qui, en comparaison avec d'autres régions du monde, est particulièrement radieux. Si vous regardez le développement de l'Inde, le développement du continent africain, ce qui s'est passé ces derniers mois en Amérique latine, l'Union européenne est certainement une des régions du monde où le développement et la vie est plutôt, comme vous dites, bonne. Mais en même temps, il reste beaucoup à faire.
Merci beaucoup Sabine Sorudger d'être venue dans notre studio. Je rappelle, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble.
Alors oui, merci, merci beaucoup. Donc on l'aura compris, la sortie de l'Union européenne signifie bien qu'il y a un problème dans l'organisation qu'est l'Union européenne. C'est aussi pourtant une possibilité pour les États membres d'avancer, de relancer cette intégration et peut-être de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens. Donc on va dire que l'Union européenne a encore de beaux jours devant elle. Voilà, il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble, c'est l'heure du long format.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Grenoble, l'une des villes les plus accessibles du territoire pour les personnes à mobilité réduite. C'est le résultat d'un classement de l'Association des paralysés de France. Julia Beaufils, vous l'avez constaté sur le terrain, depuis de nombreuses années, la ville a mis en place des aménagements pour inclure au mieux les handicapés, mais quelques efforts restent encore à faire.
Nathalie attend le tram direction centre-ville. Elle est en fauteuil depuis sa naissance. Ses nerfs n'obéissent pas à son cerveau. Originaire de Clermont-Ferrand, cette mère de famille s'installe dans les années 90 à Grenoble. Un choix nécessaire pour sa famille.
Je suis venue à Grenoble parce que j'ai élevé ma fille et que si je n'avais pas eu une ville aussi accessible, je n'aurais pas eu la garde de ma fille.
Et les exemples d'une ville à sa portée sont nombreux.
Dans tous les bâtiments importants, on peut y aller, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Il y a beaucoup de sorties accessibles. On peut aller loin aussi avec le tram. Exemple concret, le tram n'a pas de palette, il est plat, il est mis à hauteur, les trottoirs sont mis à hauteur pour qu'on puisse monter directement.
Une liberté de mouvement que Nathalie n'a pas trouvée ailleurs.
C'est une des villes où il y a le plus grand nombre de bateaux. Les bateaux, ce sont les bouts de trottoirs qui sont ronds et où on peut faire passer les poussettes. Ça, c'est très important, les gens ne le savent pas.
Dans la capitale des Alpes, même les logements sont adaptés. Mais pour les détails, heureusement que Nathalie veille au grain.
Mon immeuble, si je n'avais pas été là pour signaler à l'architecte qu'il plaçait l'interphone trop haut, il ne se rendait pas compte puisqu'il n'est pas en fauteuil. Excusez-moi, je sors par là.
Grenoble, ville accessible, c'est également l'avis d'Anne-Lise, atteinte de myopathie, mais elle pointe quelques efforts encore nécessaires.
C'est vrai que c'est très accessible, mais il reste encore des magasins où on ne peut pas accéder en fait. Il y a certains magasins qui font des plans inclinés, mais c'est vraiment trop pentu pour nous, donc c'est pas possible.
Des efforts que Catherine Lagier, salariée du service aide humaine de l'APF Isère, souligne elle aussi.
Il reste encore du travail à faire dans les commerces. Parfois, les fauteuils roulants sont assez imposants et ne passent pas à la porte d'entrée du magasin. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir choisir de rentrer dans n'importe quel magasin encore.
Selon cette travailleuse sociale, l'enjeu n'est pas d'accéder seulement à des lieux, mais aussi à différents services d'accompagnement.
Il y a encore beaucoup à faire sur l'aide humaine pour pouvoir financer une aide à domicile. Puisque pour pouvoir sortir de son logement quand on est tétraplégique, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à sortir du logement.
Réhumaniser procédure comme assistance, voilà le prochain objectif à atteindre.
Et pour les étudiants porteurs d'un handicap, un service accueil handicap est proposé sur le campus universitaire. Il est possible de prendre rendez-vous du lundi après-midi au vendredi midi. 16h58 sur Radio Campus Grenoble et c'est maintenant le rappel des titres avec vous, Claire Guédon.
L'Union européenne à 27, c'est dans quelques heures, après 3 ans et demi de déchirement politique, le Brexit sera officiellement enclenché ce soir. Emmanuel Macron devrait s'exprimer en début de soirée. Un des 200 Français rapatriés de Wuhan ce midi présente des symptômes du coronavirus. Il est actuellement hospitalisé à Marseille. Les autres passagers seront placés en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône pendant 15 jours. Et la finale du simple dames à l'Open d'Australie de tennis, ce sera dimanche. La jeune Sofia Kenin affrontera l'Espagnole Garbiñe Muguruza.
Merci Claire. Et avant de terminer, un petit point météo. Ce week-end à Grenoble, le temps sera nuageux et pluvieux. Les températures demain seront comprises entre 4 et 13 degrés. Pareil pour dimanche. Dans le sud Isère aussi, de la pluie est à prévoir. La température maximale sera de 10 degrés à peu près. Voilà, il est presque 17h sur Radio Campus Grenoble. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à toute la rédaction et à Louis Oscovin qui était à la technique aujourd'hui, accompagné de Benoît Almeras. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble ou sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Microcité. Et d'ici là, portez-vous bien.